Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Beaucoup de choses ce matin. On va vous parler dans deux instants de la victoire du Canada au hockey féminin. La médaille d'or, une autre performance exceptionnelle.
Exact, victoire de 3-2 sur les États-Unis.
Mais d'abord, on commence avec un double médaillé des Jeux.
Oui, Elliott Grondin, la Beauce est à l'honneur ce matin. Mais parce oui. Que dans quelques instants, on va parler à la mère de Marie-Philippe Poulin. Et là, on va parler avec Elliott Grondin qui a remporté deux médailles à ces Jeux de Pékin en snowboard cross et en snowboard cross mix. Et on va le retrouver tout de suite au bout du fil. Elliott Grondin, bonjour.
Salut, ça va bien?
Oui, toi, ça doit bien aller.
Oui, ça va assez bien.
Écoute, parle-nous un peu de ton expérience aux Jeux olympiques. Évidemment, c'est une expérience extrêmement positive avec les deux médailles que tu as remportées, là.
Oui, non, c'était assez incroyable, je dirais. Il s'est passé beaucoup de choses là-bas. Puis, avec le COVID, d'avoir la chance de quand même pouvoir participer aux Jeux olympiques. Puis, surtout de remporter deux médailles en moins de 48 heures, ça va être assez rapide, là.
Et je lisais des commentaires des gens de ton entourage, ta famille, entre autres, qui disaient, il est allé là-bas, lui, en se disant, moi, je veux avoir du fun. Mais tu devais aussi avoir en tête l'idée de remporter des médailles, là, au moins une, en tout cas.
Oui, puis non, je dirais, tu sais, c'est sûr que les Jeux, ça arrive seulement une fois 4 ans. Donc, je l'ai vraiment apprécié tous les moments que j'avais là-bas. Puis, je savais qu'en ayant du plaisir, puis en faisant la tâche que j'avais à faire, tu les résultats allaient suivre. Donc, j'avais pas vraiment une penser directement vers une médaille. Je regardais plus qu'est-ce que j'avais à faire et comment le faire. Puis je savais que si je faisais bien ça, ben que la médaille allait probablement être à la ligne d'arrivée. Donc c'est ça que j'ai réussi à faire. Puis je suis super content d'avoir fait ça.
Tu as commencé très jeune, à l'âge de 8 ans, une première compétition à Stoneham, en banlieue de Québec. Et déjà là, on te considérait comme un phénomène de la discipline, là.
Ouais, c'est sûr, j'ai commencé assez jeune dans le sport, puis j'ai été assez chanceux d'être bien entouré tout au long de mon développement. J'ai eu des super coachs, puis c'est sûr que mes parents ils ont fait une grosse différence là-dedans, ils m'ont toujours supporté, donc ça fait une bonne différence.
Mais parlant des membres de ta famille, j'ai aussi lu que évidemment pour tes parents ça entraînait des dépenses là. Ton grand-père a fait du porte-à-porte pour récolter de l'argent afin de financer tes compétitions.
Oui, c'est ça. Mon grand-père, quand j'étais plus jeune, il s'est quand même beaucoup impliqué pour que je puisse justement réussir à aller faire toutes les courses dont j'avais besoin pour monter les échelons pour en arriver où je suis aujourd'hui.
Tu es encore très jeune. C'était tes deuxièmes Jeux olympiques. Est-ce que tu rembarques dans un autre cycle de 4 ans en prévision des prochains Jeux d'hiver?
Oui, c'est sûr que oui.
Il y a moins de... Y a pas d'hésitation. Merci beaucoup, bravo.
Merci.
Bon, alors voilà pour ce médaillé, double médaille olympique quand même, faut le mentionner. Tu le disais, la mère de Marie-Philippe Poulin est avec nous ce matin parce que c'est pas rien. Triple médaillé d'or aux Jeux olympiques. Dani Nadeau est avec nous. Madame Nadeau, bonjour.
Bonjour.
Bon, racontez-moi comment vous avez vu le match. Vous étiez à quel endroit, vous étiez combien, puis qu'est-ce que vous avez pensé du match?
Oh, ça a été, on était réunis dans une grange super bien décorée. C'était magique comme endroit, mettons. Et puis, on était à peu près 25-30 personnes, toutes de la famille et des amis. Et puis, on regardait la TV soit dedans ou en dehors avec un feu qui était allumé à l'extérieur aussi. C'était de toute beauté. Puis on a forcé. Mais oui. Puis on a forcé.
On s'en était parlé la dernière fois qu'on vous avait eu en entrevue.
Oui.
Et encore une fois, cette nuit, votre fille, dans les moments importants, c'est là qu'elle joue son meilleur hockey.
Ouais, on ne sait pas pourquoi, là, mais je pense qu'elle aime ça, je ne sais pas.
Non, mais il y en a qui réagissent mieux que d'autres à la pression ou qui, on ne sait pas, là, deviennent, comme on dit, là, l'élément qui fait toute la différence.
Ben, je sais pas. Elle a de la chance aussi un peu au travers, je crois. Mais en tout cas, elle réussit bien dans ces moments-là. On le dit tout le temps. Mais semble que ça se peut pas. Mais semble que ça se peut pas. Mais ça arrive tout le temps.
Est-ce qu'elle a appelé sa mère ou sa mère l'a appelé?
Non, on s'est skypé. C'est elle qui nous a téléphoné vers 4 heures à matin, 4 heures et demie. Puis on s'est parlé un petit peu. Puis elle nous montrait sa médaille. Puis elle était toute excitée. D'un coup, elle a fondu en larmes. Pauvre petite. Mon Dieu, j'aurais donc aimé ça la serrer dans mes bras.
Est-ce que vous avez une idée sur la suite des choses? Est-ce qu'elle entend poursuivre sa carrière et aller peut-être au prochain Jeux d'hiver?
Elle a pas, on n'a aucunement parlé du futur. Je pense qu'elle voulait vivre ces jeux-là au jour le jour, puis on verra ce qui va se produire par la suite. Ça va être comme ça, je pense qu'elle va continuer là. Je sais qu'elle va continuer avec ses écoles de hockey là, l'été, comme elle fait avec Caroline Ouellette régulièrement. Mais pour la suite, on le sait pas. Puis elle a fait aussi des entraînements à l'Université McGill. Pour la suite, on sait pas.
En tout cas, on peut dire que la Beauce est à l'honneur parce qu'on vient de parler à Elliott Grondin.
Oui, et là, Marie-Philippe... j'ai entendu. C'est beau. Une belle histoire, lui aussi. C'est vraiment agréable d'entendre ça.
Ben, reposez-vous, Mme Nadeau, puis dites-vous une chose. Je pense que Marie-Philippe Poulin pourrait jouer pour le Canadien. De ce temps-là, il cherche pas mal de monde.
Non, pas vraiment. Parce qu'il faut pas comparer des gars avec
c'est
des
encore
filles.
Drôle.
Oh, je pense qu'elle est bien meilleure qu'une couple qui sont déjà sur la patinoire. Merci d'avoir pris le temps avec nous.
Merci beaucoup, madame.
Au revoir.
Hey, merci. Au revoir.
OK, bye-bye. C'est la mère de Marie-Philippe Poulin. Elle pourrait jouer avec le Canadien.
Oh, écoute, me dire une chose, là. Elle serait meilleure qu'une coupe, certain.
Oublie pas qu'on n'est pas en reconstruction. Et d'ailleurs...
Faut pas dire le mot.
Non, mais un instant. Est-ce que tu as l'extrait de District 31? Ah, OK. Ben, parle un peu, Richard, on va sortir un extrait.
Juste vous dire qu'on a parlé de la médaille d'or de l'équipe canadienne en hockey féminin. Faut parler également de la médaille d'argent en ski cross de Marielle Thompson, qui fait que le Canada a maintenant 20 médailles à son actif aux Jeux olympiques. Et l'autre chose, on en parle depuis plusieurs jours, la fameuse patineuse artistique russe va être en action dans quelques minutes. C'est le programme libre du concours de patinage artistique. Et je vous rappelle qu'elle est en tête à l'issue du programme court. Et évidemment, elle n'aura pas de médaille, même si elle gagne, là. Il va y avoir l'enquête sur le fond de cette affaire-là. Mais elle devrait là être en action, sauter sur la patinoire bientôt. Là, il y avait 4 ou 5 patineuses avant elle quand on est entré en onde.
Et le Canadien junior joue aujourd'hui
contre les Blues de Saint-Louis. Mais le mot reconstruction hier, le Canadien l'a prononcé sur le bout des lèvres. Et il veut pas non plus parler d'une vente de feu. Il dit, si le téléphone sonne puis on est intéressé à nos joueurs, on va écouter.
Comment dirais-je? Luc Diane, vous le savez, c'est un ami. Et hier, dans l'épisode, vous allez entendre l'extrait où on voit deux policiers qui se font demander « As-tu vu le journal à matin? » Puis là, oui. Et là, je vous rappelle, là, ça n'a pas été fait hier, cette affaire-là. Donc, ça a été écrit, ça a été tourné, puis ça a été diffusé hier. Voici l'extrait de District 31.
Je ne peux pas commenter ça, Carl. Voyons donc, on va pas s'énerver à chaque fois que Brière écrit un article sur la police.
Sur la police, non. Sur le 31, oui.
Pas de temps de niaiser avec ça, moi, là.
Salut, Carl.
Comment ça va?
Bien.
Ça va? Les gars, dites-moi donc, qu'est-ce que vous pensez de l'article que vous avez lu ce matin?
La reconstruction du Canadien, une méchante bonne idée, ça. Moi, je suis sûr que dans 3-4 ans, on va se dire, c'est ce qu'on a bien fait.
Là. Arrête de faire ton comique, toi, là.
Tu parles de Brière.
Ouais. Quand même,
Il n'a pas peur du mot.
Non. La reconstruction du Canadien dans le District 31.
D'ailleurs, avez-vous écouté la semaine dernière? On va parler un peu de moi.
Vas-y donc.
Parce qu'il y avait une discussion entre la nouvelle lieutenant, là, et elle parlait avec un journaliste, Brière.
Oui.
Puis Brière se pensait persécuté.
Oui.
Elle a dit, c'est pas les Brières, les Paquettes, les Tremblés ou les Crêtes.
Tu vois?
Elle dit, c'est les journalistes en général.
Tu vois? Nostradione.
J'ai eu des textos, les gens, ils disent, on vient d'entendre ton nom. Dans...
Attends, il y a une autre histoire, c'est Mélodie, par exemple.
Ah, OK, tu le savais.
Non, pas ça, mais une autre histoire dans les prochaines semaines.
Ah oui?
Mais ben là, je veux pas trop en dire, là, mais il va arriver quelque chose au directeur du SPGM.
Ah.
Il m'a texté ça en riant. Fait que, tu sais, ça te donne un peu...
Hey, si je peux me permettre, juste dire à Alain qu'on entend le mien à tous les épisodes.
On attend quoi?
Son nom?
Brière.
Ah!
Vos histoires ne m'intéressent pas!
OK, on va aller à la pause. Très bien.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Québécois et... En fait, tout un don. Et au Québec, on voit pas ça très souvent en termes de volume, d'ampleur. C'est un don de 40 millions à l'Université de Montréal. Et on en parle ce matin de bien d'autres choses avec le président et chef de la direction de Québécois, Pierre-Carl Péladeau. Monsieur Péladeau, bonjour.
Oui, bonjour.
40 millions, c'est pas rien. C'est la compagnie, c'est la fondation, évidemment, de votre père et de votre mère. Première question, pourquoi cette cause-là? Parce qu'on devine que vous êtes sollicité pas mal. Il y a pas beaucoup de Québécois qui peuvent faire un chèque comme ça. Qu'est-ce qui fait que vous dites oui à ce projet-là?
Ben, c'est un concours de circonstances. C'est certain que, donc, vous le mentionnez, donc, les sollicitations sont nombreuses. Et c'est normal. Il n'y a pas nécessairement, donc, des centaines d'entreprises installées à Montréal. Oui, il y en a, là, mais je dirais d'une ampleur, là, qui sont en mesure de pouvoir contribuer de façon pas significative. Toute contribution est importante, là. Je veux pas réduire.
Non, mais qui peut faire un gros chèque, là.
Mettons, là, comme on dit.
C'est ça.
Alors, puis cette tradition-là est relativement récente parce que les grandes entreprises, on fera pas toute l'histoire du Québec, là, mais il y a 100 ans, elles étaient inexistantes ou presque. Là. C'est dans les années 50-60 là, qu'il y a eu l'émergence d'une classe d'entrepreneurs, de dirigeants qui se sont investis dans leur entreprise plutôt que de travailler pour des multinationales américaines ou etc. Puis ça a créé, je dirais, donc la fondation de ce qu'aujourd'hui nous sommes en mesure de cultiver et de récolter, dans la mesure où effectivement donc ces entreprises-là ont des surfaces financières, excusez-moi l'expression, là, suffisamment importantes pour contribuer à l'effort collectif. Et Dieu sait si effectivement on le sait, mais d'une certaine façon aussi c'est bon pour les entreprises parce que elles sont soudées dans le tissu social, que l'éducation est certainement un facteur déterminant pour la croissance économique et également aussi, je dirais, la réduction des inégalités dans une perspective sociale.
Mais quels sont vos critères? Parce qu'on le disait, là, beaucoup de demandes. Qu'est-ce qui fait que vous dites oui à un puis vous dites non à tel autre projet?
Ben, en général, également aussi, nous sommes sollicités. Mettons que l'Université McGill peut-être ne me sollicitera pas.
Ça se peut, ça.
C'est pas impossible.
Vous auriez pas fait un gros chèque à McGill ou à Dawson, je pense.
Mais disons que il y a des priorités. Je pense qu'à quelque part, il y a comme une appartenance socio-économico-politique, excusez-moi le long terme, là. Et que pour les universités francophones, bon, c'est indéniable, l'Université de Montréal est là depuis des décennies. C'est moins vrai pour l'UQAM, mais on a déjà également, puis je suis certain qu'on va continuer à contribuer à l'UQAM. Donc, le milieu universitaire francophone ne peut pas nécessairement compter sur des ressources aussi importantes que celles qui, historiquement, ont contribué, notamment, donc par exemple, à l'Université McGill. Est-ce que c'est une perspective d'équité, de partage, là où, effectivement, peut-être les contributions ont été moins nombreuses dans le passé, en raison également aussi, je dirais, d'une appartenance, faut pas se le cacher, là, socio-économique puis linguistique. Hein, les Québécois ou les Canadiens français, comme on les appelait précédemment, étaient plus donc de la classe ouvrière que de la classe moyenne ou de la classe dirigeante. Les choses ont changé, ouais. Et c'est la raison pour laquelle on doit contribuer.
Mais de façon générale, est-ce qu'il n'y a pas un réflexe au Québec aussi de dire l'État qui prend beaucoup de place, c'est à l'État de payer. On paye des taxes, on travaille, et qu'il y a des gens qui ont des moyens qui n'ont pas le réflexe premier de donner à des fondations, que ce soit en santé ou en éducation.
Oui, ça peut être un élément. Et je pense, et le recteur Jutras en parlait justement hier durant la présentation, cette contribution également aussi s'inscrit dans dans une volonté de développer du côté donc de l'université, des dirigeants de l'université, une campagne de sollicitation auprès également aussi des diplômés. Et on peut facilement réfléchir, tu sais, il y a eu ces grands débats sur la gratuité scolaire, il y a 10 ans,
ouais, le printemps
érable. Même moi, quand j'étais TQ à l'UQAM, justement, on faisait la grève pour les prêts bourses et puis pour la gratuité scolaire. Donc, c'est certain qu'au Québec, nous nous sommes dirigés, puis grâce à Paul Gérin Lajoie, à René Lévesque, aux gens qui savaient et qui ont continué à croire que l'éducation était importante pour l'émancipation. Donc, une plus grande accessibilité lorsqu'on se compare à l'univers nord-américain où des frais de scolarité dans les grandes universités américaines, c'est hors de prix. Ça fonctionne autrement. Il y a des prêts bourses, il y a de l'endettement. Je pense que le choix qui a été fait au Québec, c'est justement donc de généraliser l'accès, de faire en sorte que ce soit plus facile et qu'il n'y ait pas de barrière aussi élevée socio-économiquement. Par contre, puis c'est ce que je pense que le recteur Jutras veut se faire comme porte-parole. Si nous avons bénéficié de ces conditions comme diplômés, une fois qu'on a bien réussi dans la vie, puis qu'on est en mesure de pouvoir avoir un patrimoine important, ben il m'apparaît tout à fait naturel également aussi que des contributions personnelles se fassent auprès de
l'université. Un retour d'ascenseur.
Exactement. Un retour d'ascenseur. Scratch my back, I'll scratch yours. Et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Puis je pense que ça devrait fonctionner. T'sais, oui, l'État est présent, mais c'est pas uniquement à l'État de le faire. En même temps, on le fait de façon systématique parce qu'on nous payons nos impôts. Pour ceux qui y payent, là. Ça, c'est un autre débat.
C'est une autre question. Bon, ben justement, comment vont les affaires?
Ben ça va pas si mal. C'est certain que donc la pandémie également aussi, comme tout le monde, ont eu des effets. Mais pour nos activités de télécom, ça s'est relativement bien passé. Les gens sont restés à la maison, l'internet. Puis je pense que ça c'est important également aussi de le souligner. Il y a eu une consommation très importante, une recrudescence on a constaté que les réseaux dans lesquels nous investissons depuis des décennies, à coût de centaines de millions de dollars, ben ont tenu le fort. Hein. Et puis toutes ces consommations, que ce soit les Netflix ou autre chose, les clubs illico également, ont fait en sorte de démontrer hors de tout doute que oui, des fois on n'est pas nécessairement toujours gentil à l'endroit des entreprises de télécom, mais les réseaux ont tenu le coup. Et puis je pense que justement ça illustre l'importance des investissements qui ont été faits dans le passé et la poursuite de ces investissements là pour s'assurer justement. Parce que si un secteur névralgique pour le développement économique d'un pays, c'est bien les télécommunications. Et particulièrement, évidemment, l'Internet.
Exemple, Vidéotron, on sait que c'est votre gros joueur, là. Est-ce que vous sentez ce qu'on observe dans d'autres sociétés? C'est-à-dire, par exemple, des gens qui laissent tomber l'abonnement au câble pour se brancher sur le web, streaming seulement, téléphone portable, mais pas de ligne à la maison. Est-ce que ça commence à avoir un effet chez vous?
Bien sûr. C'est un phénomène nord-américain. Je dirais même un phénomène, je sais pas si c'est comme ça en Asie, là, mais certainement occidental également. Oui, il y a une diminution de la câblodistribution. Ça, c'est clair. D'ailleurs, il y avait un chiffre, il y a une dizaine de jours, qui est sorti de l'Institut de la statistique numérique, un truc comme ça. C'est un nouvel institut, mais je pense que les gens qui le composent sont des gens très sérieux, des gens d'expertise, qui ont donc indiqué que pour la première fois, il y avait plus d'abonnés à un service de streaming, donc de vidéos sur demande par abonnement, comme en français, que de clients câblo-distributeurs. Et ça, c'est très important et ça fait de très, très nombreuses années. Moi, avec les années qui passent, comme dirigeant, donc j'ai eu plusieurs présidents du CRTC et je me souviens que déjà dans les années au début de 2000, à partir de l'émergence de l'Internet, en partant du principe que ça allait changer de façon drastique la façon dont on regardait les choses, parce que dorénavant, c'est plus le distributeur ou le diffuseur qui décide ce que vous allez regarder. Avec l'Internet, c'était l'utilisateur qui disait, moi, je m'en vais en Chine, je m'en vais aux États-Unis.
Je décide, je fais mon choix.
Les Netflix n'existaient pas, mais c'était facile d'anticiper que ça viendrait, ça existerait. Et tout ça, toutes ces entreprises-là, évoluent dans un environnement déréglementé. Puis, vous êtes confus. Vous êtes confus.
Oui, oui, non, non, j'avais eu une discussion avec Mme Joly. Mais oui, même.
La taxe sur Netflix, on a eu, c'était comme le beau bordel, cette affaire-là.
Mais là, sentez-vous que ça change? Sentez-vous que le fédéral, M. Trudeau, a fini par admettre qu'il fallait traiter les entreprises sur le même, de la même façon?
Oui, ben bon, il y a certainement également aussi de l'effet politique, là, eu égard à ces annonces-là. Donc, c'est assez technique, le projet de loi dorénavant là, qui est sous étude à la Chambre.
Mais allez-vous être d'égal à égal avec un Netflix? Pas avec...
Non, c'est sûr que non.
Non.
Bon, premièrement, on n'a pas les moyens financiers de Netflix. Puis ensuite, entre-temps, ben, les Netflix se sont multipliés ou se sont reproduits. Mm. Il y a Disney, donc il y a Paramount, il y a Amazon, donc des entreprises qui ont des centaines de milliards de dollars de capitalisation. Quand on dit que Québécois, c'est un empire, mais c'est lilliputien là lorsqu'on se compare à Amazon ou à Google ou à Netflix ou name it, là. Donc par contre on a je dirais certaines particularités puis on essaie donc de pouvoir capitaliser là-dessus. C'est notre capacité de bien connaître la sensibilité francophone, de connaître la culture. Et à cet égard-là, ben, les géants mondiaux n'ont pas cette capacité. Donc, on a l'avantage.
Vous êtes président de tout. Là. Vous êtes président de Québécois, président de Vidéotron, président de TVA. Vous pouvez être président de tout. Vous avez assez de temps dans une journée.
Oui, oui, mais je suis très bien entouré. C'est d'ailleurs.
Allez-vous rester président de tout pendant longtemps?
Ah ben là, je le sais pas. Donc on verra bien. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a des choses qui doivent être faites. Et puis bon, je l'ai fait, mais c'est certain que je peux compter effectivement autour de moi de proches collaborateurs et de proches collaboratrices qui ont énormément de talent. Et ça a toujours été quand même aussi, je dirais, chez Québécois, parmi toutes les filiales, donc un modus operandi. Certains nous ont blâmés d'être convergent, tu sais, à une certaine époque. Maintenant, je pense que la convergence fait partie quand même de pas mal des entreprises de médias, notamment nos concurrents qui, notre concurrent, si je peux dire, le plus important, donc Bell, qui a copié entièrement notre modèle.
Êtes-vous toujours en guerre avec Bell? Toujours en chicane? J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vois une nouvelle, c'est Québécois contre Bell, Québécois mise en demeure, Bell mise en demeure.
Oui. Ben écoutez, il faut défendre les intérêts des actionnaires de Québécois. Ben, ça tombe bien en même temps aussi, j'en suis un important, mais c'est pas ça qui me motive. Je pense que il faut faire en sorte que, justement, puis particulièrement donc depuis les nombreuses années, on parlait donc de la précarité de la radiodiffusion. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que nos chaînes spécialisées puis nos services soient correctement rémunérés. Autant que le sont les chaînes de Bell, qui sont antérieurement les chaînes d'Astral, qui ont bénéficié, je dirais, donc d'une espèce d'avantage historique, parce que tu sais, fallait pas être un PhD en physique nucléaire pour faire de l'argent en chaîne spécialisée, là. T'avais un monopole, puis t'allais simplement négocier au CRTC de la redevance, et le câble distributeur était obligé de te payer le montant. Puis il y avait quand même à l'époque également aussi de la croissance. Maintenant, c'est plus vrai. Donc, quand il y a moins d'abonnés en câble distribution, il y a moins d'abonnés également sur les chaînes spécialisées. Ouais. On investit de façon massive dans nos chaînes spécialisées. On investit pour TVA Sport. Et on considère ne pas
être... Là, vous trouvez que Belle paye pas assez, en gros.
Mais nous, on reçoit pas suffisamment pour nos chaînes, puis on paye trop pour les chaînes de Belle.
OK. Parlons un peu de politique. Je peux pas croire là, que celui qui a été le chef du Parti québécois n'est pas intéressé. Quand vous voyez un sondage, d'ailleurs, qui était dans votre journal, puis que le PQ vivote, là, vous vous dites quoi?
Ben, écoutez, ça serait... illusoire de penser donc que la souveraineté est en vogue ces temps-ci, c'est indéniable. Est-ce que ça m'émeut? Oui.
Est-ce que ça vous manque?
Non, parce que, comme vous le dites, là, je suis assez occupé.
Non, je comprends, mais de dire pareil, vous avez quitté la direction du PQ, c'était pas par choix, c'était pas, il y avait un contexte là, à ce moment-là, familial. Mais est-ce que quand vous dites ça me tenterait peut-être de revenir là, ça...
Non, là, je suis passé à autre chose. Là, je pense qu'on peut pas non plus.
Vous avez une croix sur la politique.
Oui. Puis il y a certaines inconciliabilités, excusez-moi l'expression. Donc des fois le monde des affaires et puis la politique. Oui, j'aimerais pouvoir prendre position publiquement, mais dans le rôle que j'assume, je peux pas commencer à contrarier les clients, les fournisseurs, mais j'en pense pas moins. Je continue à m'informer, je vous écoute le matin, Jonathan Trudeau, et puis Drainville, mon collègue. D'ailleurs, je vous félicite parce que vraiment, donc, vous êtes faites un travail exceptionnel avec votre équipe. Oui. Je lis le Journal de Montréal, la presse, j'écoute Radio-Canada.
Tout
le kit.
C'est parfait. Parlez-moi un peu du ministre des Nordiques. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Ben écoutez, je trouve que c'est une belle initiative.
Parce que quand même, il y a le centre Vidéotron. Oui. Si vous avez une entente là-bas, s'il y a un club de hockey, vous êtes là.
Oui, mais on est toujours intéressé et puis on va continuer à travailler. C'est le premier ministre... que je crois sincère là, dans sa volonté de faire le nécessaire, de déployer des efforts pour convaincre le commissaire et éventuellement aussi d'autres parties prenantes de la Ligue nationale, que ce soit des propriétaires ou autre chose. Bon, c'est une très bonne chose, on peut pas faire...
On a l'impression des fois que la Ligue niaise Québec, c'est-à-dire que... On va vous recevoir, vous êtes bien fin, bien gentil, on vous offre le café, mais il n'y a pas de place, là, puis vous n'êtes pas sur la liste vraiment.
On peut penser, puis je pense que c'est facile d'y croire, que malgré ce que disent certains, pas nécessairement tout le monde est favorable à la candidature
Il y a d'autres villes
Québec,
qui passent avant. Mais,
oui, puis peut-être également aussi, puis ça a laissé un goût amer, là, le départ des Nordiques, il y a de ça plusieurs années. Certaines personnes vont penser que à Québec, le marché socio-économique n'est pas suffisant, on ne pourra pas vendre assez de loges. Moi, je pense évidemment tout le contraire. Depuis les 25 dernières années, évidemment, donc Québec s'est fortement développé. Là aussi, là, quand on parle d'entrepreneuriat, à Québec, on en a de nombreux, puis il y a des belles réalisations, puis ça va continuer parce qu'il y a
Mais est-ce que vous entretenez des liens avec les autres propriétaires, les gouverneurs, là, comme on les appelle, pour justement de faire la promotion de votre club potentiel?
Oui, ça m'est arrivé donc de parler à des propriétaires. En même temps, faut pas se le cacher. Le grand patron de tout ça, c'est le commissaire. Donc, c'est le commissaire à la fin de journée.
On pose une question plus précise. Le fait que vous étiez chef d'un parti indépendantiste, pensez-vous que ça nuit?
Ben, j'ai entendu certaines personnes penser que ça pouvait être le cas. Honnêtement, je peux pas me mettre dans la peau et puis dans la tête du commissaire Bettman, mais je ne croirais pas. Je pense que, bon, c'est pas une tare universelle.
Non,
que...
mais je voyais les démarrais qui voulaient acheter peut-être un club à Ottawa, eux aussi.
Oui, mais c'est parce que ça peut être intéressant également aussi d'acheter un club. Il y a plusieurs personnes qui en ont aux États-Unis. Nous, faut pas se le cacher, c'est un modèle d'affaires. Puis c'est pour ça également aussi donc que je persiste à penser que la candidature de Québec est une des meilleures candidatures parce que, effectivement, vous l'avez mentionné, il y a un amphithéâtre qui est tout à fait récent. Il y a une entreprise derrière Québécois et il y a une base de partisans extrêmement importante. Et le milieu socio-économique s'est développé de façon sensible depuis les dernières décennies. Alors, lorsque vous mettez tout ça, ces éléments-là ensemble, honnêtement, je trouve que ce sont les recettes qui vont faire en sorte de pouvoir couronner toutes les initiatives de succès à moyen ou à long terme.
Il faut qu'il y ait un intérêt de la Ligue nationale.
Il faut convaincre le commissaire, mais on sait que...
Mais on est ministre des Nordiques. Là,
oui, mais
on est
je pense que c'est une très bonne chose.
Monsieur Péladeau, merci d'être venu.
Je vous en prie, merci beaucoup.
Pierre-Carl Péladeau, président et chef de la direction de Québécois. Beaucoup de questions sur l'essence, Matabé. En fait, on le voit, le prix de l'essence grimpe, puis la cadence est solide, 1,70$, 1,72$. Ce qui amène beaucoup de questions. Bon, on va parler de l'univers de l'automobile avec notre ami Benoît Charrette, qui est le rédacteur en chef de l'annuel de l'automobile. Bonjour, Benoît.
Salut, Paul.
Ben, le prix à la pompe, là, ça n'arrête pas d'augmenter. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Là?
Bon, on va faire un résumé. On va reculer d'un an, mais on va aller vite. Rappelle-toi, au début de la pandémie, on avait le litre d'essence sous les 80 cents le litre. On était même à 75, 76 dans certaines régions. Là, évidemment, les gens étaient à la maison. Il n'y avait pas de demande. Donc, il y avait... beaucoup d'offres et peu de demandes. Et là, tranquillement, ben évidemment, on a un peu déconfiné. On est revenu à des valeurs plus normales, sauf que l'OPEP avait organisé ses prix en fonction que ça n'arrive plus. Donc, on voulait pas de hausse et de baisse cruelle comme on avait eu. Donc, on a limité la production de barils pour augmenter seulement de 400 000 barils de plus par jour. Et ça, ça s'est décidé l'automne passé. Donc, on a créé une espèce de, disons, pénurie artificielle, appelons-la comme ça. Et là, ben évidemment, plus récemment, le problème se situe avec le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, les dangers d'invasion qu'on a, parce qu'il faut pas oublier que la Russie est un très grand producteur de pétrole, et Joe Biden a menacé d'avoir des réprimandes, et parmi ces réprimandes-là, de ne plus prendre de pétrole de la Russie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres membres de l'OPEP devront pomper plus de pétrole pour fournir le monde, mais eux ont décidé de dire non, on garde la cadence qu'on a. Donc là, ce qu'on craint, c'est qu'on craint qu'il y ait une pénurie si la Russie passe du côté de l'Ukraine et qu'il y a une invasion. Okay. Donc, les prix à la hausse qu'on a en ce moment proviennent beaucoup de là. Évidemment, si la Russie décide de ne pas faire l'invasion de l'Ukraine, on devrait logiquement voir les prix revenir à des valeurs plus normales et baisser un peu.
Mais là, donc la consommation va augmenter. Là, on déconfine. Je comprends que le télétravail demeure une option, là. Mais les gens, on va arriver au printemps, puis il y aura des déplacements, même cet été, à travers le Québec. À 1,70 $, d'après toi, là, puis je sais que t'as pas de boule de cristal, mais est-ce que c'est un plafond ou ça pourrait monter encore?
Moi, je pense qu'on peut se rendre à 2 $ probablement, parce que là, évidemment, si l'OPEP... Parce que là, l'OPEP a le gros bout du bâton. C'est eux qui produisent la grande majorité du pétrole sur la planète. Et eux, pour le moment, ont décidé de ne pas produire plus. Donc, le problème qui arrive, c'est qu'on va arriver à un plafonnement au niveau de l'offre et la demande va continuer d'augmenter parce que tu l'as dit, on déconfine, les gens vont voyager plus, vont sortir. Donc, si l'OPEP décide de ne pas bouger, la pression à la hausse va continuer et d'après moi, on pourrait atteindre les 2 $ le litre quelque part au courant de l'été.
Bon, la grande question, est-ce que je suis obligé de mettre du super? Est-ce que je peux me contenter de l'essence de base pour mon véhicule, peu importe là, ce qui est indiqué par le manufacturier?
Moi, je dis toujours, allez selon les recommandations, parce qu'il y a des moteurs à haut rendement, des moteurs turbo, qui demandent des taux de détonation plus élevés. Parce que de l'essence super, c'est quoi? Ben, c'est une essence qui a un taux de détonation plus élevé pour les moteurs de performance des moteurs turbo. On peut mettre de l'ordinaire une fois, là. C'est pas dramatique. D'abord, on va perdre la puissance avec de l'ordinaire parce que c'est une essence moins performante. Mais c'est surtout qu'on risque d'encrasser le moteur et c'est surtout ça le problème. Vous allez sauver quelques dollars à la pompe, mais vous allez en payer plus en réparation plus tard. Donc, l'équation est pas intéressante. Ceux qui n'ont pas de recommandations pour de l'essence super, mettez de l'ordinaire. Ça donne rien. Des gens disent, ah, super, c'est plus propre et tout ça. Mais si c'est pas recommandé, vous restez à l'ordinaire. Mais si on vous recommande le super, puis c'est toujours indiqué. En ouvrant le clapet, c'est toujours marqué minimum 91 ou minimum 87 dans la plupart des cas. Sinon, dans le manuel du propriétaire, qui maintenant est dans bien des voitures plus récentes, directement dans l'écran central, il y a une icône dans voiture ou dans car, puis vous allez dans le manuel directement là et vous pouvez consulter là, c'est toujours écrit.
Bon, deux questions rapides en terminant. D'abord, les voitures d'occasion, paraît-il que ça a jamais coûté aussi cher. On comprend qu'il y a une forme de rareté là aussi qui s'est créée.
Ben, en fait, il y a une rareté. D'abord, il n'y a pas beaucoup d'autos sur le marché neuves ou d'occasion. L'autre problème, c'est que le dollar canadien est bas. Et quand le dollar canadien est bas, les Américains viennent acheter nos véhicules d'occasion. On a dit là, l'an dernier qu'il y avait à peu près 100 000 véhicules au Québec d'occasion qui étaient partis du côté des États-Unis. On s'enligne en 2021. Les chiffres sont pas tout à fait sortis, mais c'est 200 000. C'est le double. Parce que les Américains achètent à prix canadien sans négocier. Puis on est à peu près 1,27 $. Eux autres vont revendre ça au même dollar américain, puis ils font presque du 30% de profit sans négocier. Alors, ils sont morts de rire, ils viennent acheter à peu près tout chez nous. Alors, les gens qui achètent chez nous ont très peu de véhicules dans lesquels choisir. Puis l'autre problème, mais comme il n'y a pas de neuf, on se rabat souvent sur l'occasion. et l'occasion devient très, très chère. Écoute, le prix moyen pour un véhicule d'occasion au Canada en 2021, c'était presque 28 000 $. Même des gens qui ont des véhicules récents, des 2018-19, peuvent pratiquement revendre ce véhicule-là au même prix qu'ils l'ont payé neuf trois ans plus tard. On en est là pour le moment.
Et est-ce qu'il y a encore des délais de production là à cause des fameux microprocesseurs? Oui. Donc, les gens qui achètent un véhicule neuf, de façon générale, vont devoir patienter.
Absolument. Écoute, Paul, on parle encore des fameuses micropuces. Là, il y a pas encore de rétablissement. Ça s'améliore. Les constructeurs disent que ça va aller mieux au courant de l'année 2022, mais on prévoit une année 2022 à l'image de 2021. Ça n'ira pas beaucoup plus vite. On le sait, les chaînes d'approvisionnement, c'est difficile. Et là, il y a même des séquelles à cause des camionneurs sur le pont Ambassador là, du côté de Windsor. Les usines Toyota en Ontario sont encore fermées, même si le blocus est terminé. On va reprendre tranquillement, mais faut pas s'attendre à de grands miracles pour 2022. Là, on est rendu à 2023 à ce niveau-là.
Merci Benoît, bonne journée.
Merci Paul, salut.
Benoît Charrette, donc collaborateur, rédacteur en chef de l'annuel de l'automobile, puis d'ailleurs il fait une émission sur le réseau de Cogeco. Ça s'appelle « Ça tient la route ».
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
On va faire un espèce de pas de côté ce matin parce que bon, on a beaucoup discuté de la loi des mesures d'urgence qui a été décrétée par le gouvernement fédéral. Québec va faire le point à 13h15, probablement une espèce de calendrier visant à faire disparaître le passeport vaccinal. Je dis un pas de côté parce que on reçoit ce matin David Saint-Jacques, qui est astronaute et médecin. Et je trouvais important de voir un peu, d'abord, on sait qu'il a mené avec ses collègues des expériences durant la mission qui s'est étalée quand même sur 204 jours. Qu'est-ce que ces expériences ont permis d'apprendre? Qu'est-ce que cette pandémie, parce qu'il est aussi médecin, donc, nous permet de comprendre sur le système de santé? Il est quand même très gentil d'être avec nous ce matin. Monsieur Saint-Jacques, bonjour.
Bonjour, M. Arcand, bonjour tout le monde.
Première question, avec ces expériences que vous avez menées à bord donc de cette station spatiale, peut-être nous résumer... Quelles étaient les expériences, puis qu'est-ce qu'on a appris de ça?
Oui, alors le contexte de la recherche médicale, si on veut, dans l'espace, c'est il y a comme deux aspects à ça. Le premier aspect, c'est qu'on a ce rêve fou là, d'un jour aller sur Mars, et puis faire survivre les êtres humains jusque-là dans un environnement complètement étranger à l'endroit où on a évolué, c'est un défi énorme. Alors, la station spatiale, il y a comme une liste de questions à répondre depuis les dizaines d'années qu'elle existe. Donc, il y a un peu un but purement pour l'espace. Mais c'est pas seulement ça. Ce qui est fascinant, et ça qui me fascine personnellement comme médecin, c'est que tous les problèmes de santé qui affligent les astronautes à bord, c'est des problèmes de santé, dans le fond, qui ressemblent à des maladies là, que tout le monde peut avoir sur Terre, mais qui se développe très rapidement chez des individus, par ailleurs, en excellente santé. Donc, on est un peu des sujets de laboratoire parfaits pour la recherche médicale.
Donnez-moi des exemples de problèmes de santé que les astronautes développent et qui s'apparentent à ce que des terriens peuvent avoir aussi.
Oui. Alors, par exemple, la perte de densité osseuse. On connaît tous une personne âgée qui est ostéoporotique. Les astronautes... Si on mesure le calcium dans notre urine, déjà après une demi-heure en apesanteur, on commence à, si on veut, uriner nos os, à les désagréger, parce que sans le besoin d'ossature forte, en l'absence de gravité, notre corps est conservateur de son énergie et puis commence à s'en débarrasser. Donc, on développe de l'ostéoporose. Même chose pour la masse musculaire, la solidité de tous les tissus, là, les tendons, l'anémie aussi, le système vasculaire, le système cardiaque, le système neurologique, le système immunitaire, ça s'apparente tout ça à une espèce de vieillissement accéléré. C'est probablement relié au stress de l'environnement, puis au fait que quand on sort l'organisme humain là, de son cocon, si on veut, dans lequel on est né, tout est débalancé. Alors, ça, c'est dit,
c'est extraordinaire aller en orbite. C'est le fun de flotter, mais c'est juste vraiment mauvais pour la santé. Fait que ça, c'est comme une opportunité de recherche qui est extraordinaire. Puis le Canada, c'est un peu notre dada si on veut de faire de la recherche, surtout en santé. Ça, c'est un aspect, les maladies qu'on développe. L'autre aspect, c'est la technologie médicale. C'est-à-dire, c'est un grand défi de permettre aux astronautes de prendre soin de leur propre santé, hein, parce qu'ils sont loin, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital, ils n'ont pas de spécialistes, il n'y a pas beaucoup d'équipement. Donc, ils sont un petit peu comme des gens qui sont dans un village éloigné, hein, ou des gens qui sont en région, ou des personnes âgées qui sont prises à domicile parce que c'est trop compliqué d'aller voir, d'aller à la clinique. On est un peu des patients isolés. Donc, il y a toute une recherche qui se fait en technologie d'automatisation, de personnalisation de la médecine, d'analyse de sang sur place, prise des signes vitaux automatisés, le support de télémédecine, par exemple, si on veut faire de l'échographie, bon, ça fait sur soi-même avec quelqu'un qui nous guide. Donc, voyez, il y a tout le côté un peu recherche pure sur la santé et technologie pour améliorer, si on veut, le côté pratique de la livraison des soins de santé.
Ce vieillissement accéléré que vous venez de décrire, c'est temporaire ou si encore aujourd'hui, vous avez peut-être des séquelles de ce que vous avez vécu?
Alors, il y a certains aspects qui sont réversibles, et donc temporaires, et d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, la densité de mes os, j'en avais perdu 10-15% peut-être. C'est pas mal, presque tout revenu. Il va probablement rester un déficit. Fait que c'est comme si j'étais, c'est comme si ça m'avait avancé de 10 ans d'âge en termes de densité osseuse. En termes musculaires, cardiovasculaires, c'est pas mal tout revenu. Il y a des choses un peu mystérieuses qui se passent en rapport en neurologie avec le probablement à cause de l'augmentation de pression dans la boîte crânienne. Alors ça, pendant plusieurs mois après le retour de l'espace, comme beaucoup d'astronautes, je me sentais un peu dans le vague, ok, un petit peu mêlé, si on veut, on appelle ça space brain. Ça c'est revenu, mais c'est très intriguant. Ça c'est un peu un mystère. Des problèmes oculaires, certains développent. Moi j'en ai pas eu, alors j'étais chanceux, j'ai pas eu de perte de champ de vision. Après ça, ben les choses qui sont complètement revenues, c'est le sens de l'équilibre. J'avais complètement oublié c'était quoi l'équilibre, évidemment, vu qu'il n'y a pas de gravité. Mon esprit avait juste oublié ça. Et là, ça, c'est complètement revenu. Je me suis remis à refaire du patin puis du ski, là. Donc, il y a des choses qui reviennent, il y a des choses qui ne reviennent pas. La chose qui ne revient pas, en termes de... On joue un peu à la roulette russe avec le risque de cancer dans l'espace parce qu'on est très exposé aux des radiations là-haut. On n'est pas protégé par l'atmosphère, moins protégé par le champ magnétique terrestre. Donc, on augmente la chance de développer un cancer un jour. Mais ça, c'est un peu... c'est des statistiques, ça. On sera plus tard. Ça reste un domaine de recherche très intense en médecine spatiale. Comment minimiser les risques de cancer pour les gens qui un jour iront vers Mars? Et ça, vous pouvez imaginer, évidemment, c'est un sujet d'intérêt pour tout le monde en médecine, pas juste les astronautes.
Vous parliez tantôt de médecine personnalisée. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment la voie de l'avenir, pas juste pour des régions éloignées, mais d'avoir, par exemple, parlé de cancer, un traitement plus ciblé, plus donc personnalisé et probablement plus efficace pour le patient?
Je pense que oui. Moi, je pense que j'ai toujours cru. Moi, avant, j'étais médecin dans le Grand Nord. Hein. J'étais médecin dans les petits villages, la Baie-du-Tson. Et bon, j'étais un peu tout seul à m'occuper de mes patients avec quelques gangs là, de super infirmières, des pilotes de brousse, des avions ambulances, des interprètes inuits. Puis c'était ça, l'équipe de santé. Puis bon, dès qu'on avait un truc qu'on pouvait faire nous-mêmes, c'est ça qui changeait la vie. Plutôt que d'être obligé d'envoyer le patient à Montréal pour une consultation avec le danger, les délais, tout ça. Donc, moi, j'y crois que c'est tout ce qu'on veut. Hein. On veut tout ça. Je pense que la pandémie nous a tous donné une espèce d'appétit pour amener la médecine chez nous et arrêter d'amener les patients à la médecine, vous voyez ce que je veux dire, pour avoir une médecine qui est plus personnalisée, qu'on soit plus autonome. C'est pas seulement, comme vous le dites, c'est pas seulement pour les gens qui vivent en région éloignée. Pensez à une personne âgée qui est prise chez elle parce qu'elle n'est pas très mobile, elle est très isolée, en certain sens, même si c'est au centre-ville. Pensez à un travailleur qui est dans un environnement dangereux, il est très isolé. Pensez à nos militaires qui sont déployés. On peut penser à des sportifs qui sont en train de monter de montagne. On peut penser même, comme médecin, je peux vous raconter l'histoire, même les patients à l'intérieur d'un hôpital universitaire, si c'est des patients aux soins intensifs qui sont attachés de partout, sont dans leur chambre, ils sont aussi très isolés, hein, ils sont difficiles d'accès. Donc, je pense qu'il y a un grand appétit là, pour un renouvellement, une modernisation de la manière dont on livre les soins de santé. Et tous les ingrédients sont là. C'est ça qui est formidable. Au Canada, on a tellement de talents, de technologies, de savoir-faire. Il suffit juste un peu de rassembler toutes ces forces vives-là. Les solutions existent là, mais elles sont comme pas encore, c'est pas encore mis ensemble. Puis le grand défi, de moderniser un système de santé, c'est qu'évidemment, c'est une machine qui roule. Hein, c'est comme essayer de faire de la mécanique automobile sur une auto qui roule sur l'autoroute. Tu peux pas l'arrêter. Il faut que tu continues. Tu peux pas dire on arrête tout pendant un an, on modernise, on recommence.
Non, c'est pas.
C'est vraiment tout un défi logistique.
J'aimerais vous entendre sur le tourisme spatial, sur ces milliardaires là qui prennent leur monnaie et qui se tapent un petit plaisir comme ça.
Ah ouais, on en entend beaucoup parler cette année. Hein? C'est un peu c'est ça qui se passe en ce moment dans le. Moi, je pense que d'abord, je pense que c'est une évolution naturelle. Un peu comment, si vous aviez demandé à votre arrière-grand-père, pensez-vous qu'un jour, monsieur, madame, tout le monde va pouvoir prendre l'avion? Il aurait dit, ben là, c'est possible. Hein? C'est seulement des fous qui font ça avec des avions qu'on fabrique eux-mêmes. C'est impossible, jamais. Mais là, de nos jours, c'est la technologie a fait que ça fait partie un peu de notre vie, l'aviation. Je pense que l'espace va finir par en arriver là. On n'est pas encore du tout rendu à un monde où c'est pour monsieur et madame tout le monde, parce qu'il faut encore, appelons un chat, il faut être très riche pour que ça le permette. Mais moi, ce que je trouve formidable là-dedans, c'est que, d'abord, l'argent qui est investi pour ces vols spatiaux-là, hein, essentiellement, c'est de l'argent qui va à subventionner le programme spatial. C'est des salaires d'ingénieurs. Chaque vaisseau spatial est un prototype. Hein. Chaque vaisseau spatial, il y a un risque. Chaque vaisseau spatial demande de la recherche. Et donc, tout ça, ça continue à faire progresser. Mais peut-être ce qui est le plus important à mes yeux, c'est que les gens qui, en ce moment, peuvent se permettre des voyages, si on veut, touristiques dans l'espace ou privés, parce qu'il y en a qui font beaucoup de recherches scientifiques pendant leur voyage, dont Mark Partey, le prochain Canadien qui va partir de son propre chef. C'est des gens qui ont la capacité de changer la société parce que c'est des gens qui ont de l'influence. Alors moi, personnellement, que des gens aussi influents voient la planète de l'espace, je trouve ça bien. Parce que ça change complètement la perspective sur la vie, de voir de ses propres yeux la fragilité de la condition humaine. On dirait que ça donne un peu une espèce de douche froide, de se concentrer sur les choses qui comptent, hein, dans le fond, qui sont de s'assurer qu'on lègue à la génération future une planète qui a de l'allure et s'assurer qu'on met tous nos efforts à arrêter de se chicaner les peuples et les autres, puisqu'on est un peu figurativement tous dans le même bateau.
David Saint-Jacques, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là, toujours aussi intéressant. Bonne journée à vous.
Merci, M. Arcand. Bonne journée froide d'hiver.
Oui, absolument. David Saint-Jacques, donc, astronaute et médecin.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.